Merci beaucoup. Après une introduction, deux introductions aussi magistrales, je voulais vous dire tout mon plaisir d'être invité aujourd'hui au Centre Alain Savary et tout l'honneur que j'ai à prendre la parole devant vous qui formez une assemblée composite. Je connais beaucoup de visages, mais pas tous, et je crois qu'il y a dans cette salle des représentants des collectivités territoriales sans lesquels nous n'aurions rien pu faire, et je tiens tout particulièrement à les saluer, en particulier les représentants de la région Rhône-Alpes, puisque le schéma régional directeur est signé et qu'il est très riche. Puisque nous sommes à Lyon, j'en profite avec un clin d'œil, il en faut toujours dans l'éducation, pour saluer la belle victoire de l'OM hier, pour me réjouir de la fête des Lumières à laquelle je ne pourrai pas malheureusement assister ce soir, c'est fini, et pour saluer en contrepoint la peinture en noir de Soulages au musée des Beaux-Arts. Si j'ai parlé de Soulages, c'est parce que je voulais vous livrer une petite anecdote rapide. Le jour où j'ai été appelé par Jean-Michel Blanquer pour m'occuper des internats d'excellence, c'était le 1er novembre 2009 et j'étais au centre Pompidou en train justement de regarder l'exposition Soulages qui était programmée à cette époque. Donc tout se tient. Ce que je trouve aussi très intéressant dans la démarche du Centre Alain Savary, c'est ses regards croisés, ses compétences mêlées. Et c'est ce que nous avons toujours appelé de nos voeux en matière d'internat d'excellence, ou d'internat tout court, ou de nos méthodes de travail en général. Nous n'avons pas la vérité révélée, tant s'en faut, nous avançons avec des hypothèses, et nous sommes heureux que d'autres se penchent avec nous pour nous donner leur avis, pour éventuellement nous rectifier, nous corriger ou nous ouvrir de nouveaux chemins. Sans cette méthode-là, on ne peut pas progresser. Lorsque j'étais professeur, il y a longtemps, malheureusement, j'ai commencé ma carrière au CPR de Nice et je citais toujours à mes élèves de lycée professionnel, d'ailleurs, ce qui se passait au confluent de la Tinée et de la Vésubie, deux beaux torrents à truites de montagne, et je leur disais que là où le mélange des eaux s'effectue, le brassage est très important, l'oxygénation maximale, le plancton le plus abondant, et c'est là que se font les prises les plus belles. 40 ans après, cette image, je crois, n'a pas vieilli. Même si, dans quelques mois, je crois que moi, je ne pourrai plus prendre la parole en public, sauf si je suis invité, mais d'une manière plus informelle. Voilà. Que vous dire aujourd'hui dans le laps de temps qui m'est généreusement concédé? Eh bien, j'ai envie de vous proposer une petite promenade au travers des siècles sur la notion d'internat en Europe. À partir de ce parcours rapide, j'essaierai ici ou là, selon les temps, selon les circonstances, de pointer quelques éléments qui perdurent dans nos propres internats aujourd'hui, et nous envisagerons aussi le lendemain des internats qui vont continuer. La période, bien sûr, est nouvelle. Le ministre a dit tout l'intérêt qu'il portait aux internats, à l'extension de l'excellence à l'ensemble des internats, et ce sont des paroles qu'à titre individuel et bien sûr qu'à titre de fonctionnaire, je ne peux qu'approuver. Nous les avons toujours appelés de nos voeux dès le début. Et puis, si vous le permettez, et là aussi c'est un second clin d'œil, si des chercheurs veulent se pencher sur le sujet d'étude que je puis encore être, c'est bien volontiers. Donc, parce que paradoxalement, on a beaucoup regardé les internats, mais on n'a pas toujours interviewé ni Jean-François Bourdon, ni celui qui a conduit, sous l'autorité des deux DGESCO différents, la politique des internats d'excellence. Donc je me prêterai volontiers à un petit jeu de questions-réponses, si vous le voulez. Voilà. Donc, j'avais intitulé, lorsque j'ai un peu réfléchi à cette prise de parole, j'avais intitulé mon propos « L'internat, origine, image et évolution ». Je suis professeur de géographie, mais aussi d'histoire à l'origine, donc forcément, il y a quelques restes, et je me suis penché sur la question de l'internat au travers des siècles. Paradoxalement, d'ailleurs, je me suis rendu compte, mais je n'ai pas réfléchi avant, que il n'y a pas de notion d'internat dans l'Antiquité. L'enseignement se fait avec un pédagogue, avec un magistère, mais on ne trouve pas de traces d'un enseignement collectif. On se promène à Athènes dans les jardins d'Académos, mais le soir, tout le monde rentre chez soi pour vaquer à des occupations, je dirais, qui ne sont pas faites en commun. La première mention de la vie en collectivité, alors c'est une mention, je dirais, ecclésiastique, c'est peut-être les ordres monastiques qui les ont mis en avant. L'ordre bénédictin, qui a quand même pour devise « ora et labora », est sans doute, à l'aube du Moyen-Âge, un des premiers à avoir réfléchi au travail en commun. J'ai été un peu frappé par cela. Bon. Si l'on fait un saut en avant, la véritable vie en commun est liée aux études, c'est la naissance de l'université. Dans l'université de Paris, c'est 1150 à peu près. Bologne la précède de peu. Coimbra la suit de près. Et Oxford un peu plus tard. Et puis après, c'est la floraison universitaire du milieu du Moyen-Âge. Et je trouve que cette organisation de l'université, avec ses collèges, le mot est resté, collégium c'est quand même être ensemble, avec ses collèges, marque profondément, encore aujourd'hui, la vie de nos internats. Qu'est-ce que c'est que le collège médiéval? Le plus connu, bien sûr, c'est le collège de Robert de Sorbonne, qui sera la Sorbonne, mais lorsque on arpente un peu la montagne Sainte-Geneviève, on se rend compte que la rue des Écossais, pour qui a connu l'NRP, le CNDP, etc., sur ces augustes lieux, la rue des Écossais, la rue des Irlandais, sont tout autant, et il y en a beaucoup d'autres, des lieux de collège. On a beaucoup parlé ces temps-ci du collège des Bernardins. Qu'est-ce que c'est que ces endroits? Ce sont des nations, comme on disait à l'époque, qui viennent étudier sous l'autorité de quelques maîtres, et les élèves sont à la fois internes et déjà, pour certains d'entre eux, boursiers. Ils perçoivent une indemnité, doivent une déférence absolue au magistère, on peut sourire un peu parfois de cet enseignement scolastique, mais en même temps, ils pratiquent une grande liberté de pensée. On ne parle dans les collèges que de Platon et que d'Aristote, à côté des affaires théologiques, juridiques, mathématiques, etc. Je ne crois pas qu'il faille condamner la vie du collège médiéval, ou la cantonner, pardon, aux seules études, je dirais théologiques, pas du tout, et on y apprend une espèce de liberté de pensée qui m'a toujours, moi, impressionné, quelles que soient les images, parfois un peu moqueuses, que l'on peut avoir d'un enseignement dont il faut dire aussi qu'il était parfois aussi extrêmement guindé. Ce qui me plaît aussi dans le collège médiéval, c'est son côté international. Les gens voyagent. Ils ne sont pas forcément riches, ils sont même souvent assez pauvres, mais ils passent d'un collège à l'autre. Ce n'est pas ce monde un peu cantonné aux nations que nous avons un peu l'habitude de penser, surtout depuis le XIXe siècle. C'est un monde assez fluide où il n'y a pas tellement de frontières. Et c'est une idée, moi, qui me plaît beaucoup. À leur naissance, l'ébullition intellectuelle fait que On se sépare de plus en plus de l'université. La fondation du Collège de France et ses lecteurs royaux par François Ier est, entre autres, une des preuves de cette volonté d'indépendance par rapport à la férule très lourde et pleine d'interdits de l'université. Et on constate, au cours de la Renaissance, de l'époque classique, toute une floraison d'internats, religieux ou pas, avec des valences particulières, qui, par exemple, n'a pas entendu parler du collège de Clermont ou du collège d'Harcourt, devenus aujourd'hui deux éminents lycées parisiens, des querelles interminables d'ailleurs qui les opposent. Mais a-t-on pensé aussi à ces notions d'internat un peu particulier que sont le collège des quatre nations, bref aujourd'hui l'Institut de France, fondé par Mazarin pour accueillir et instruire les jeunes nobles des quatre nations récemment agrégés à la couronne. Ne me demandez pas lesquels, je crois qu'il y a le Roussillon, la Franche-Comté, mais je ne saurais pas aller plus loin, je n'ai pas poussé les recherches suffisamment. Et puis, j'ai pris un autre exemple, les demoiselles de Saint-Cyr, qui représentent enfin, une formation pour les jeunes filles. Certes nobles, certes pauvres, mais pour les jeunes filles, la pensée de l'internat ne s'épanouit qu'assez tardivement. Je n'ai pas trouvé de traces, à part l'enseignement des couvents, mais bon, ça c'est autre chose, pour l'instruction des jeunes filles avant le XVIIe siècle. Dans l'utopie de l'abbaye de Thélème, certes, mais autrement, non. Curieusement, les penseurs du XVIIIe, je regardais tout à l'heure la merveilleuse galerie des portraits qui les rassemble là, un Condorcet, un Rousseau, un Saint-Just, pour ne parler que d'eux, mais pour citer des pondérés et des plus radicaux, ne s'intéressent guère à la notion d'internat. On instruit souvent individuellement et peu collectivement. J'ai en particulier beaucoup regardé Condorcet, je n'ai pas trouvé, sauf erreur de ma part, et on me rectifiera dans ce cas-là, de traces de la notion d'éducation collective. Oui, dans le Pelletier, oui, c'est vrai. Mais chez Condorcet, qui fait quand même notre référence, il n'y en a pas. Le Pelletier, oui. Saint-Just, bon, c'est, je dirais, presque une utopie aussi de l'éducation, mais il y a le Pelletier de Saint-Fargeau, c'est vrai. L'internat au XIXe siècle fige pour nous l'image même de ce qu'est, dans l'imaginaire commun, une pension ou l'internat, même s'il ne faut pas les confondre. L'internat napoléonien, c'est bien sûr l'internat militaire, avec sa centralisation extraordinaire, avec un enseignement quasi exclusivement masculin, toujours. L'internat de la Restauration ne fait finalement que reprendre, en le transformant à peine, l'internat napoléonien, avec tout de même des poussées de plus en plus fortes pour l'éducation des jeunes filles en internat, mais là aussi la parité tarde beaucoup à s'établir. Et enfin, l'internat de la Troisième République est peut-être, le summum de la représentation de l'internat avec sa rigueur, avec sa détermination, avec son volontarisme très prononcé, le mot de hussard noir bien sûr vient à la bouche, avec la volonté de plus en plus forte de créer des écoles normales de jeunes filles. Il n'y en avait quand même qu'un tiers au moment des lois fondatrices de l'école de la République, d'écoles normales de jeunes filles par rapport au nombre d'écoles normales de jeunes gens. Ça fait tout de même assez réfléchir. Enfin, une fois la période la plus, je dirais, glorieuse de cet internat militant passé, tout se passe comme si l'internat entrait dans une période de stagnation, je dirais, voire de décadence. J'ai été frappé, quand même, en y réfléchissant un peu, à constater que tous les schémas mentaux de l'internat, synonyme d'ennui, d'adolescence un peu perdue, pour ne pas dire parfois de turpitude, datent de la fin du 19e siècle et surtout du 20e siècle. Même si on va chercher des exemples à l'étranger, ou semi à l'étranger, Jane Eyre, Fermina Marquez, bon, sans compter bien sûr nos grands classiques, donnent de l'internat une image passéiste, où l'on ne fait pas grand-chose, où l'on s'ennuie, et où parfois on perd un peu de temps, et où l'on fait parfois aussi des révoltés. Très curieusement, c'est une image qui a longtemps perduré. La crise de l'internat, vous la connaissez, pendant les 30 glorieuses, les internats entrent en repli, et ils sont souvent désertés par les familles. Je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde sait bien cela. Ce n'est que tard dans le XXe siècle, qu'avec Ségolène Royal, avec Jack Lang, on reparle d'une revitalisation des internats, et ce qui a abouti, on y arrive, depuis 3 ans maintenant, aux internats d'excellence. Je ne sais pas si le mot « excellence » perdurera, en tous les cas, si le mot perdure, il faut l'étendre. Et à l'internat d'excellence tel que nous l'avons mis en place et dont nous espérons que l'esprit survivra. Quel est l'avenir des internats? J'avoue que je ne le sais pas, je pense qu'il sera brillant. Je pourrais vous en dire davantage la semaine prochaine parce que, mais malheureusement je crois que nous ne pourrons pas nous réunir tout de suite, parce que je suis invité au cabinet pour parler de l'internat, justement, en fin de semaine. Donc on va voir comment les ministres envisagent les choses, sans doute une extension de l'excellence à tous les internats. Je crois que dans le monde où nous vivons, la notion d'internat devient de plus en plus essentielle. Curieusement, dans tout le travail que vous avez effectué, je voudrais chaleureusement remercier Patrick Rayou, Dominique Glasman et toutes leurs équipes, il n'y a pas dans l'opinion la moindre image négative de l'internat aujourd'hui. Les familles font confiance. Et cette délégation de confiance aux gens de l'internat est une des choses qui m'a le plus frappé, d'abord en lisant l'évaluation, bien sûr, et d'autre part en interrogeant les familles, les chefs d'établissement, les professeurs, les CPE, le centre social. Il y a une grande mise en confiance dans l'internat aujourd'hui, et c'est ce qui m'amène à, je dirais, beaucoup espérer sur l'avenir de ceux-ci, quelle que soit la forme qu'ils prendront. Voilà, j'ai voulu faire un peu compact. C'est volontaire. Et si vous le souhaitez, pendant les quelques minutes, oui, on a quand même une quinzaine de minutes, s'il y a des questions et des réponses, il y en aura, des réponses, j'essaierai d'en apporter, et je serai très content de pouvoir répondre justement à vos interrogations ou à des choses que je n'aurais pas suffisamment précisées. Merci.